Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel bilan pour ce mouvement connu sous le nom de populisme, qui sous des formes diverses, parfois contradictoires, s'impose partout sur la planète depuis quelques années au nom des mêmes valeurs, retour de la religion, respect de la famille patriarcale et des identités, refus de la mondialisation. On le disait irrésistible depuis 10 ans, mais il a l'air de marquer le pas un peu partout. Bolsonaro au Brésil se ridiculise, Matteo Salvini voit le pouvoir lui échapper en Italie, Boris Johnson s'empêtre dans le Brexit et même Donald Trump cale, en ce moment, face aux conséquences de sa politique iranienne, tandis que l'OCDE lui prédit une récession mondiale du fait de sa politique. Quantité de livres et de documentaires sortent en ce moment pour tenter de répondre à cette question et analyser le phénomène. On en a retenu 2 qui s'attachent à dessiner le portrait des hommes qui ont mis en forme de chaque côté de l'Atlantique cette vague populiste. Steve Bannon, le grand manipulateur, un documentaire réalisé par Alison Clayman qui sort la semaine prochaine sur les écrans et fait le portrait de l'homme qui a fabriqué Trump et de son influence en Europe. Et enfin L'ennemi, le livre somme très étonnant de Georges Buisson sur son père Patrick Buisson, l'homme qui a en quelque sorte fabriqué le Nicolas Sarkozy identitaire. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Martial Foucault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en sciences politiques à Sciences Po Paris, directeur du CEVIPOF, et vous publiez en collaboration avec Yann Algan, Elisabeth Bosselet, Daniel Cohen, Les origines du populisme, enquête sur un schisme politique et social aux éditions du Seuil. Alain Frachon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien correspondant à Jérusalem et à Washington du Monde. Vous avez dirigé le service étranger et puis vous avez été rédacteur en chef au Monde, directeur de la rédaction et aujourd'hui chroniqueur. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont l'Amérique messianique en 2004 et la Chine contre les États-Unis avec Daniel Vernet. Et enfin, Georges Buisson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur donc de L'ennemi, qui sort cet automne chez Grasset, qui est consacré à votre père et à vos relations avec votre père. Patrick Buisson, c'est par vous que je vais commencer. C'est un livre très étonnant, c'est un peu, à vrai dire, la raison d'être de cette émission, parce que c'est un livre qui fait vraiment signe des temps pour plusieurs raisons. C'est à la fois un livre sur la politique, sur le parcours d'un homme, votre père, qui a passé toute sa carrière politique à l'extrême droite avant de devenir le conseiller de Nicolas Sarkozy. C'est aussi un livre sur des relations fils-père. C'est un livre sur la filiation et sur l'impossible filiation et le refus de la filiation. Donc on va essayer d'en parler un peu et de recontextualiser ce livre qui parfois part un peu, qui est très touffu, hein, qui part quelquefois dans plusieurs directions en même temps. C'est pas toujours facile à suivre, mais il donne un éclairage assez étonnant, à la fois sur la politique, sur le parcours intellectuel de ce qui a fini par donner le populisme. Et aussi sur le tissu humain qu'il y a derrière certaines au moins des personnalités qui s'agitent dans ce courant. Vous avez mis combien de temps à l'écrire ?
Alors, j'ai mis 3 ans à l'écrire. Oui. En fait, c'est un livre qui m'a été demandé après un passage au grand journal de Canal+, où j'étais venu sur le plateau me défendre contre mon père au moment du scandale des enregistrements clandestins qui avait été divulgué. Et j'avais été obligé de venir sur un plateau de télévision pour m'expliquer, pour dire que c'était pas moi qui avais révélé ces enregistrements.
Et par les enregistrements que Patrick Buisson
faisait de Nicolas Sarkozy, président de la République. Mmh. Et on m'avait contacté donc pour écrire un livre sur le sujet. Et c'était un livre qui devait faire 150 pages et que je devais écrire en 3 mois. Et j'ai commencé à travailler dessus et je me suis dit non, c'est pas possible. Je voulais pas faire un livre de colère, je voulais pas faire un livre de désespoir, je voulais comprendre. Et pour comprendre, il a fallu que je me plonge dans le parcours de mon père, Patrick Buisson donc, et que je remonte tout son parcours politique depuis 50 ans. Et pour ça, il m'a fallu mener des heures et des heures de recherche en Bibliothèque nationale, à rechercher des documents rares et à reconstituer son parcours, qui n'est pas un parcours qui est vraiment balisé par l'historiographie officielle, parce que c'est un monde qui est très particulier, le monde de l'extrême droite. C'est un monde qu'on ne pénètre pas, qui est un monde de mensonges, de dissimulation, et qui finalement ne peut être raconté que de l'intérieur. Mmh. Et ce que j'ai fait, ça m'a pris donc 3 ans d'écriture et de recherche, et après il y a eu 2 ans de relecture, d'amendements et de corrections.
Alors sur l'aspect intellectuel, il y a plusieurs éléments que en tout cas moi j'ignorais, notamment le rôle de la guerre d'Algérie dans la rhétorique de l'extrême droite, dans ce retournement de l'extrême droite qui va finir par, grâce à la guerre d'Algérie, les militants de l'extrême droite vont pouvoir se raconter qu'ils sont eux-mêmes des résistants. Ça commence avec le nom même de l'OAS, Organisation Armée Secrète, qui reprend le nom de l'armée secrète de la résistance et qui va jusqu'à créer un conseil de la résistance qui prend le relais de l'OAS et dont le chef Georges Bidault a été le successeur de Jean Moulin à la tête du vrai conseil national de la résistance. Donc il y a toute une sorte de logique de front renversé qui se met en place à ce moment-là où De Gaulle apparaît comme le Pétain en fait.
C'était la figure ironique de l'extrême droite pendant des années. Mais ça c'est vraiment une des caractéristiques de l'extrême droite, c'est vraiment le retournement historique. C'est une histoire à l'envers et ça a commencé très tôt. Ça a commencé à la fin du XVIIIe siècle avec l'abbé Baruel qui a écrit une contre-histoire de la Révolution française. Donc c'est vraiment un trait qu'on retrouve avec les mots des historiens maurassiens. On les avait avec Gaxotte, on les avait avec Jacques Bainville. C'est vraiment quelque chose, le champ historique, le retournement historique.
Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver longtemps après,
ce qu'on retrouve aujourd'hui encore.
Aujourd'hui, bien sûr, qui va permettre ensuite l'équivalence entre Pétain et De Gaulle. Mais cette idée que ces gens d'extrême droite sont finalement échappent à la honte parce que grâce à l'Algérie française, ils deviennent les vrais résistants en quelque sorte contre l'establishment.
Mais ce sont des hommes qui sont généralement vaincus par l'histoire, qui sont considérés comme des parias. Donc la branche de salut, c'est le retournement historique, c'est l'inversion. Mais ça vaut pour tout, ça vaut aussi pour le négationnisme, ça vaut sur tous les domaines historiques. C'est pas que sur l'Algérie, c'est vraiment à tous les points de vue. Et ils vont en faire une force. Ils vont en faire une force à partir des années 70, quand ils vont décider d'investir ce qu'on appelle toujours le champ métapolitique.
Alors voilà, je vais y venir. C'est à ce moment-là que l'extrême droite, en quelque sorte, apprend la logique démocratique. C'est-à-dire que vous citez Dominique Vienner, qui s'est suicidé en 2013 devant Notre-Dame pour protester contre ce qu'il appelait les désirs individuels envahissants qui détruisent nos ancrages identitaires et qui, au début des années 60, a écrit un traité qui s'appelle « Pour une critique positive », dans lequel il écrivait qu'il faut créer les conditions d'une action nouvelle, populaire et résolument légale. C'est-à-dire que pour la première fois, à ce moment-là, l'extrême droite décide d'investir le champ politique démocratique.
Alors ça viendra plus tard, ça viendra surtout pendant les années 70, parce que dans les années 70, l'extrême droite, politiquement, c'est même pas 1%. Le Pen, en 74, il fait moins d'1%. Et ça va être 10 ans de nuit, mais ça va être une nuit qui va être féconde. C'est-à-dire qu'ils vont réfléchir aux moyens d'arriver au pouvoir. Mmh. Alors, c'est pas quelque chose qu'on a reconstruit à posteriori, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont déclaré. Il y avait une revue qui s'appelait Item, dans les années 70, qui rassemblait tout ce que l'extrême droite comptait de cerveau. C'est-à-dire une trentaine de personnes, c'est déjà pas mal. Et mon père a écrit un texte à ce moment-là, un texte qui est rétrospectivement et prophétique, qui s'appelait « La droite n'existe plus ». Ce qu'il lui appelle la droite, il faut l'entendre l'extrême droite. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce texte? Il dit « L'extrême droite est devenue une communauté des refus, un clan, replié sur ses idéaux et sur ses détestations, et l'extrême droite n'a jamais réfléchi aux moyens de prendre le pouvoir. Et quand elle a comploté, elle l'a toujours fait au grand jour, depuis les contre-révolutionnaires jusqu'aux putschistes d'Alger en 61. Et lui, il a écrit noir sur blanc, et maintenant il faut faire le contraire. Il faut réfléchir aux moyens de prendre le pouvoir, s'inspirer des techniques de l'extrême gauche et de la gauche. Ils vont prendre Gramsci, qui était fondateur du Parti communiste italien, et son combat métapolitique, et on va faire ça dans le secret. C'est-à-dire qu'on va porter un projet politique et un projet métapolitique. Le projet politique, ça va être avec le Front National. Le projet métapolitique, ça va être investir les médias, la culture, la recherche historique, pour faire diffuser les idées dans l'opinion, avant d'engranger un gain électoral. C'est ça, c'est la victoire idéologique précède la victoire politique. Et c'est quelque chose qui va trouver une petite consécration en 2007, on est juste avant le premier tour de la présidentielle, juste avant l'élection de Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy déclare dans Figaro, au fond, j'ai fait mien le combat des idées et je suis un disciple de Gramsci. Il reprend mot pour mot les mots de Buisson, 30 ans après.
Alain Frachon et Marcel Foucault, vous connaissiez cette histoire de ce retournement idéologique de l'extrême droite, cet apprentissage de la démocratie et de ce qu'on peut appeler l'infiltration culturelle?
Absolument pas, non. J'ignorais comme ça cette sorte de plan, de programmation, de planification avec un double visage, donc le parti qui concourt aux élections, et puis derrière, une manière d'entrisme dans les institutions culturelles, le cinéma, l'université, ou etc. J'ignorais absolument tout de cela.
Marcel Foucault ?
Oui, non, moi aussi, j'apprends beaucoup de choses, mais en entendant les mots, finalement, de comment faire circuler des idées politiques, les stratégies de conquête du pouvoir, ça ressemble, je veux dire, c'est quelque chose que l'on peut observer dans d'autres pays, pour d'autres forces politiques, et qui, pour moi, soulève deux questions extrêmement intéressantes. C'est la contradiction qu'il peut y avoir entre, derrière le mot « idée », c'est la formation d'une idéologie qui va trouver sa place, parce que conquérir le pouvoir, ça veut dire aussi s'adresser, séduire des citoyens, électeurs. Et puis, un deuxième élément, c'est finalement comment ne pas être dépassé par l'œuvre que l'on crée. Et donc, une question autour quels sont les penseurs sur lesquels on peut s'appuyer, quels sont les penseurs qui vont rester dans cette famille si, toutefois, cette stratégie de circulation ou de conquête du pouvoir échouait ou prendrait trop de temps. Donc, et ça, c'est un élément, pour moi, qui est très intéressant. Il semblerait que, finalement...
Ce sont des hommes du temps long. C'est-à-dire que c'est quand même c'était pas un projet pour la prochaine élection électorale. C'était l'échéance électorale, c'était quelque chose qui a pris 30 ou 40 ans.
Le seul exemple, moi, qui me vient à l'idée comme ça, c'est l'exemple américain où, à la fin des années 60, ou dans le milieu des années 60, c'est pas uniquement vrai des néoconservateurs, et c'est pas du tout le même corpus idéologique que celui de l'extrême droite dont vous parlez. Ça n'a rien à voir comme corpus idéologique. Ces gens-là ne croient pas du tout cela, mais ils réalisent que l'université est à gauche, qu'une partie de la presse est à gauche, ou libérale, comme on dit aux États-Unis, et qu'il leur faut aussi un forum, qu'on se bat d'abord sur les idées, parce que les idées ont des conséquences, et que donc il faut faire circuler les idées. Et c'est eux qui vont créer les grands centres de pensée, laboratoires de pensée, les think tanks, l'American Enterprise, Heritage Foundation, etc., pour contrebalancer l'université relayant les idées libertaires des années 60, notamment sur le plan sociétal, mais aussi en politique étrangère, etc., alors que eux veulent mettre le doigt sur les aspects dangereux, estiment-ils, pour la société américaine de l'ère du temps libertaire des années 60.
Alors, ce qui est fascinant, c'est de voir les échos avec aujourd'hui. C'est-à-dire que vous citez, en plus de votre père, vous citez Alain de Benoît dans la revue Item, justement, au début des années 60, qui dit « J'appelle de droite l'attitude consistant à considérer la diversité du monde et donc les inégalités relatives qui en sont nécessairement le produit comme un bien et l'homogénéisation progressive du monde prônée par le discours bimillénaire de l'idéologie égalitaire comme un mal. » Tous les égalitarismes sont des machines à aplanir et à assimiler.
Exactement.
C'est Alain de Benoît qui va finir par, au nom de cette idéologie, soutenir l'islam politique. Ça pourrait être, dans une certaine mesure, les indigènes de la République, parce qu'on retrouve des échos tout de même étonnants. Mais c'est à cette époque-là que se conceptualise un certain nombre de débats qui existent aujourd'hui.
Alors, toujours à cette époque, tout simplement, parce qu'en 72, est votée la loi Pleven. La loi Pleven qui réprime l'incitation à la haine raciale. C'est-à-dire que l'extrême droite, elle ne peut plus jouer ouvertement la carte du racisme. Elle a besoin de se réinventer et elle va se réinventer sur le plan lexical. Et pour continuer à prôner les mêmes idées sans tomber sous couvert de la loi, ils vont plus être racistes ouvertement. Ils vont développer une théorie à part qui va être ce qu'on a appelé à l'époque, c'est un peu changé, l'ethno-différentialisme. Ouais. Pour aller très très vite, c'est, on va dire, pour que les identités se maintiennent, il faut que chacun puisse se développer séparément. Il faut refuser le métissage, il faut refuser le mélange. Très simplement, chacun chez soi.
Voilà, c'est ça. Alain Frachon ?
Non, j'essayais toujours de poursuivre cette comparaison avec les États-Unis, mais je ne trouvais pas d'équivalent, justement, dans le mouvement néoconservateur. Il faut dire que, si vous voulez, aux États-Unis...
Le Ku Klux Klan,
mais le Ku Klux Klan ne fait pas partie du mouvement néoconservateur. En France, l'extrême droite a dû se trouver confrontée aussi à à cette espèce d'idée dominante, c'est que les idées, la créativité intellectuelle, etc., est à gauche. Ce qui n'était pas le cas aux États-Unis.
Oui.
Les idées, la créativité intellectuelle étaient à droite dans les grandes revues new-yorkaises menées par des gens qui étaient, même s'ils votaient pour le Parti démocrate, mais ils se situaient plutôt à droite du Parti démocrate ou carrément dans le Parti républicain. Donc c'est quand même une physionomie assez différente.
Oui, oui, oui.
Mais il n'y a pas que le sujet du racisme aussi, c'est que pendant les 70, il y a aussi une matrice qui se met en place et qui va être déterminante. C'est à ce moment-là que le Front National décide d'investir un terrain sur lequel il ne combattait pas, qui est celui de l'immigration. L'apparition de la crise pétrolière, les premiers effets du regroupement familial, le début de la crise. Et là, il y a un terrain qui est exploité par personne, qui est le terrain de l'immigration. Et l'extrême droite va vouloir investir ce terrain pour aller concurrencer le Parti communiste dans le cœur de cible qui a toujours été le sien, c'est-à-dire les classes populaires et les classes moyennes inférieures.
Mais
et
ce, ça, que à ce, dites, moment-là, c'est, ce que vous dites, c'est que ça ne se fait pas immédiatement d'ailleurs, ça ne se fait pas de façon aussi naturelle que ça. Au début, ils n'y croient pas.
Au début, ils sont attachés à leur anticommunisme primaire, secondaire, tertiaire, selon la formule de l'époque, qui est l'ADN de l'extrême droite. Après évidemment la période algérienne, puisque évidemment ils ont défendu l'Algérie française, mais c'est quelque chose, c'est venu d'ordre nouveau, qui est le successeur d'Occident, et ça a été imposé au Front National. C'est-à-dire que ça a même été imposé à Jean-Marie Le Pen, qui n'en voulait pas non plus, et ça a été imposé par un personnage qui s'appelle François Duprat.
Voilà.
Qui est un personnage énigmatique, mais assez fascinant.
Qui est à la fois le théoricien donc de la lutte contre l'immigration et un militant pro-palestinien.
Qui n'est pas un militant pro-palestinien.
Et qui a des contacts.
Qui est un antisémite.
Oui, qui est un
forcené,
antisémite.
Obsessionnel.
Et donc qui a des contacts avec le Fatah et le FLN,
oui,
je crois.
C'est-à-dire que c'est un homme qui le premier, ça s'est montré par des historiens comme Nicolas Lebourg ou Valérie Gounet, c'est le premier qui en France a articulé l'antisémitisme, le négationnisme et l'antisionisme. C'est-à-dire qu'il a trouvé une autre manière, c'est exactement comme pour l'ethnodifférentialisme, c'est une autre manière d'être antisémite. Donc il va investir l'antisionisme. Et ça, c'est le premier en France à l'avoir fait. Et de même, il va investir le terrain de l'immigration pour aller concurrencer le principal adversaire d'extrême droite à l'époque, qui est le Parti communiste. L'immigration, ça commence à se fondre.
C'est important de rappeler qu'effectivement, à l'origine du Front National, tel qu'il apparaît dans le paysage politique au début des années 70, de rappeler qu'effectivement, l'ennemi du Front National et le Parti communiste, et le communisme comme pensée idéologique, et qui mettra près de 20 ans avant que le Front National s'éloigne de cette pensée anti-communiste, et je dirais même sur le plan économique, de la doctrine économique pro-libérale au sens européen tel qu'on l'entend, et de voir aujourd'hui que finalement, non seulement le Front National s'est fortement éloigné de cette pensée anti-communiste, ce qui veut dire que dans les années 70 à la fin des années 80, le cœur de cible de l'électorat du Front National n'est pas la classe ouvrière, ne sont pas les classes populaires, mais avant tout, on va dire, un corps social composé plutôt d'artisans, de commerçants, d'indépendants, et voire, j'allais dire, de quelques notables locaux. Et ça, c'est très intéressant de voir. Et je dois dire qu'il y a plusieurs thèses qui ne font pas consensus, de comprendre si c'est un changement idéologique au nom d'une stratégie électoraliste pour pouvoir conquérir le pouvoir, ou bien si au sein de la matrice idéologique du Front National et des hommes, principalement des hommes d'ailleurs, plutôt que des femmes, il y a une évolution des idées, au sens où cette stratégie pendant 20 ans n'a pas donné les fruits qui ont été dessinés, comme vous le rappeliez, dans les années 60, fin des années 60, début des années 70. Est-ce qu'il y a eu l'aveu, finalement, d'un échec
Non, c'est une stratégie électorale qui a été pensée au sein d'Ordre Nouveau, donc avant même la création du Front National, et qui a commencé à porter ses fruits au début des années 80. En 84, les européennes de 84, le Front National et le Parti communiste sont coude à coude. En 85, il n'y a plus de débat, le Front National est devant. Ça n'a pas mis longtemps, ça n'a pas mis 15 ans. Quand on part de 1% et qu'on arrive jusqu'à 12%, pour l'extrême droite, c'est quand même une grande réussite de leur point de vue. Ils étaient vraiment dans les fins fonds des abysses électorales. C'était l'extrême droite en France de 65, qui est la candidature Tixier-Vignancourt, jusqu'à 84 avec l'élection de Le Pen. C'était rien, l'extrême droite en France. Il y en avait, c'était que l'extrême gauche. De toute façon, c'est eux qui imposaient le débat, c'est eux qui s'imposaient partout. Et c'est eux qui ont investi les cabinets ministériels en 80. C'était leur victoire.
Et alors, une des choses que vous racontez aussi, que j'ignorais totalement, c'est le rôle joué par l'extrême droite dans l'élection de Mitterrand contre Giscard d'Estaing.
C'est un secret de Polichinelle.
Oui, non, c'est un peu, mais pas à ce point quand même. Oui, il y a des détails qui sont quand même... c'est-à-dire que les réseaux sont vraiment mobilisés, d'après ce que vous racontez.
Les réseaux
Contre Giscard et ensuite contre Chirac.
Alors, ce qui est amusant, c'est que d'abord, les réseaux sont mobilisés pour Giscard en 74. Oui. Toute l'extrême droite a fait campagne pour Giscard en 74. Et après, elle a fait campagne contre Chirac en 81.
Mais je crois qu'en 65, lorsque De Gaulle est mis en ballottage, Tixier-Vignancourt se présente, et pour sa consigne de vote au deuxième tour, parce que l'ennemi c'est De Gaulle, c'est de voter Mitterrand.
Exactement.
Oui.
Et c'est ce qui va provoquer la rupture avec Jean-Marie Le Pen, qui était, tout le monde l'oublie, le directeur de campagne de Tixier-Vignancourt.
Oui, Tixier-Vignancourt, absolument. Et un dernier point, ce qui est assez drôle quand on voit le documentaire sur Bannon, où on voit tous les leaders européens, les leaders nationalistes européens se précipiter au dîner chez Steve Bannon, dont le Front National, on voit Louis Alliot arriver, c'est qu'au départ, il faut détester les États-Unis, il faut détester le melting pot et tout ce que représentent les États-Unis. Et aujourd'hui, on voit dans ce documentaire sur Steve Bannon, on voit Louis Alliot, on voit les dirigeants du Front National avec d'autres, tous les dirigeants européens, se précipiter.
Les Italiens, les Hongrois, les Polonais.
Absolument.
Sont tous autour de la table.
Oui, oui.
Le parti polonais, Justice et je ne sais plus quoi, et le parti hongrois, le parti d'Orban aussi. Oui.
Quémandant littéralement l'aide de Trump à un homme, Steve Bannon, qui n'est plus en poste auprès de Trump à ce moment-là, mais qui se dit plus ou moins proche quand même de lui.
Qui est en mission.
Qui est en mission, mais on ne sait pas très bien.
Il dit quand même qu'il se téléphone deux fois par jour, je crois.
Oui,
Ce ne serait pas étonnant, d'ailleurs. Enfin, il est parti dans de très mauvais termes, en tout cas, du côté de la Maison-Blanche. Mais après, je crois que d'ailleurs Trump l'a dit, non, mais on se téléphone quelques fois. Donc, ce n'était pas une rupture, véritablement. Broken lines, broken springs, broken threads, broken strings, broken idols, broken heads, people sleeping in broken beds, no use jiving, ain't no use joking, everything is broken, broken bottles, broken plates, broken switches, broken gates, broken dishes, broken parts, streets are filled with broken hearts. Broken words never meant to be spoken. Everything is broken. Now seem like every time you stop and look around, something else broken just hits the ground.
Broken. Alors, l'autre aspect de l'ennemi, c'est l'aspect personnel. Patrick Buisson, à un moment donné, dit dans votre livre, quand il est à Minute, je crois, je travaille pour le journal que lisait mon père. Et donc, il est obsédé par ça. Son père était Camelot du Roi. Lui-même s'inscrit dans la filiation. Il aimerait beaucoup que vous vous inscriviez, vous aussi, dans cette filiation, manifestement, quoi que vous en pensiez. Il faut que vous soyez l'héritier de quelque chose qui doit continuer.
C'est ça. Plus que la filiation, c'est l'héritage.
Oui.
Qui est le thème central, qui est le thème central de cette famille, qui effectivement reprend un combat qui était celui de son père, qui est le sien, et il a voulu que ce soit le mien.
Voilà.
Et que j'ai refusé.
Mais il va tout faire pour ça.
Il va tout faire pour ça. Il va orienter dès le plus jeune âge mes lectures, mes fréquentations, ma façon de penser. Et à son grand désespoir, je vais pas suivre son héritage. Je vais même le renier, et ce qui va conduire progressivement à la rupture.
Mais alors ça va prendre un certain temps quand même. Hein.
Oui.
Parce que vous faites un portrait familial qui est complètement... il y a les mensonges, il y a les manipulations, il y a l'obsession de l'argent, il y a le narcissisme, il y a une vraie folie. Parce que dès le début, c'est-à-dire qu'on le voit, vous montrez un type qui échoue à l'agrégation deux fois, qui doit faire des piges à droite à gauche tout en enseignant dans une boîte à bac privée, qui assure la captation de ses cours par magnétophone. Donc l'obsession de l'enregistrement, c'est très...
C'est pas l'enregistrement, l'archivage.
L'archivage, oui, pardon.
Et ça va. C'est pour tout. Hein.
Qui fait du chantage au suicide, il menace de se pendre, où il met en scène une fausse pendaison, il joue avec un revolver quand il veut impressionner son épouse, et vous aussi d'ailleurs. Il va jusqu'à faire de son épouse, de votre mère, donc le confident de ses conquêtes potentielles avec une fille que vous appelez dans le livre la jeune imôme, avec qui il va continuer d'avoir une relation suivie au fil des ans. Et tout ça sur fond religieux. Parce qu'il est catholique très pratiquant.
Catholique.
Catholique, mais il n'est pas pratiquant.
Non.
Il est entouré de la communauté Saint-Martin et de prêtres.
Et avant d'autres communautés, ils ont leurs prêtres, hein, cette famille de pensée à ces prêtres. Oui, cette partie intime était vraiment importante, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai compris en écrivant ce livre, c'est que les méthodes qu'il emploie dans sa vie personnelle sont les mêmes qu'il emploie en politique.
Oui.
C'est un tout qu'on ne peut pas séparer.
Manifestement.
C'est-à-dire que le chantage affectif, l'appel à la religion, les menaces, il opère de la même façon dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. Parce que pour lui, tout est rapport de force et tout est affrontement. Et ça vaut aussi bien pour un homme politique que pour son fils, que pour un proche.
Alors, il y a des textes dont vous dites qu'ils vous arrivent par hasard parce qu'ils ne vous sont pas destinés, mais
oui.
Il y a une et dans lesquels il parle de vous et de votre mariage, puisque vous avez épousé une malgache, c'est ça ?
Une métisse,
et où votre père parle de l'atroce confusion à laquelle vous avez succombé, apparemment la nouvelle frontière mélangiste du métissage et de la partouze.
Oui.
Il parle de sa nostalgie pour le temps où les fils bien nés ayant leur 16 quartiers de francité ne songeaient pas à adopter une nichée de négrillons, et où les jeunes femmes ne rêvaient pas de convoler en d'injustes noces avec un juif du pape en Avignon. Enfin, c'est des textes écrits intimement, dans l'intimité,
oui.
Qui révèlent une vision du monde absolument effrayante et franchement délirante.
Disons que j'ai préféré le laisser parler pour qu'il révèle cette partie de sa personnalité, parce que j'aurais dit clairement mon père est raciste, mon père est antisémite, on m'aurait dit quelles sont les preuves, c'est un règlement de compte. Donc dans ce livre, effectivement, je lui ai laissé la parole. C'est-à-dire que je retranscris des conversations que j'ai eues avec lui, des conversations privées, lettres qu'il m'a envoyées. Et le faire parler, ça permet de dévoiler...
Les dialogues entre vous sont franchement délirants. Quelquefois de part et d'autre, pour être franc, parce que il y a des dialogues du genre « la haine, votre père vous dit la haine que tu me portes, tu te rends compte, la haine, tu prétends être délivré du père qui t'a écrasé, et vous répondez si quelqu'un m'a envoûté, c'est toi. » Enfin, c'est...
Ça c'est parce qu'il m'avait accusé d'être possédé. Donc moi je lui réponds, non, c'est quelqu'un m'a envoûté, c'est toi.
Mais vous finissez quand même par vous insulter et vous taper dessus dans les couloirs de la chaîne Histoire.
Vous empoignez.
Ouais,
ouais. Moi, j'ai jamais tapé mon père. Lui, il m'a frappé, mais moi, j'ai jamais frappé.
Il y a une forme de démence.
C'est le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour lui, tout est rapport de force, tout est affrontement. Et ça, c'est comme quelque chose que j'ai mis du temps à accepter. C'est qu'il ne peut pas y avoir terrain d'entente, il ne peut pas y avoir de juste milieu. C'est soit on soumet, soit on rompt définitivement.
Et vous avez été l'homme de paille de votre père.
Exactement, c'est-à-dire que... Dans les années 90, il m'a demandé d'intégrer cette société pour lui rendre service, c'est ce que j'ai fait, et aujourd'hui encore, j'y suis. Et je suis prisonnier 30 ans après.
Cette
société. C'est un moyen de contrôler les gens, c'est-à-dire il doit toujours avoir la position haute, c'est-à-dire la position du créancier, de l'employeur, du directeur de conscience, de l'autorité morale, du père. Il doit toujours avoir la position qui permet de tenir les gens. Et en politique, c'est pareil, c'est la position du stratège. Le stratège, c'est celui qui détient la réussite. Et qui est dans la position de force.
Et vous avez travaillé aussi avec lui à la chaîne Histoire, qu'il dirigeait.
Oui, oui. Et là encore, je me suis fait malheureusement berner. C'est-à-dire qu'au départ, je ne devais pas travailler avec lui. Et puis, juste avant de signer mon contrat, j'apprends qu'il vient dans la chaîne... Il prend le poste de directeur de la chaîne Histoire.
Mais quand il vous dit, à un moment donné, votre chaîne Histoire d'ailleurs, dont vous racontez qu'elle a pratiquement décidé de militer, enfin, le groupe TF1 a pratiquement décidé de militer pour Nicolas Sarkozy à un moment donné.
Pratiquement.
Oui. Mais qu'est-ce que vous répondez quand votre père vous dit, ce que vous ne répondez pas dans le livre, qu'est-ce qui t'interdisait de partir et de démissionner, Georges? Et c'est la question qu'on se pose quand même à un moment donné. Pourquoi est-ce que vous êtes resté?
Alors pourquoi je suis resté à la chaîne Histoire?
Les deux.
Des sociétés, je pouvais pas les quitter. Juridiquement, c'est un peu compliqué, mais je suis empêché de partir. C'est-à-dire que personne va me racheter mes actions. Je connais personne qui souhaite associer avec Patrick Buisson dans ce pays. Et à la chaîne Histoire, c'est un peu différent, parce que je voulais pas lui céder en fait. Il avait placé ça sur le terrain de l'affrontement. Il n'était pas question que je cède. Et c'est pour ça que j'étais amené à écrire au PDG de l'époque, Annonce Paolini, pour demander de régler la situation. Et ils ont réglé la situation et ils m'ont mis au placard.
D'accord. Je trouve que ça éclaire, l'aspect personnel éclaire cet univers de mensonges et de délire en fait.
En fait, c'est quelque chose de très simple, c'est que les gens qui ont des mauvaises idées sont aussi des hommes mauvais. C'est aussi simple que ça.
C'est
la façon dont je vis moi, donc je ne peux pas le dire.
Mais à côté de lui, Steve Bannon, peut-être parce qu'il n'a pas d'enfant, a l'air beaucoup plus sympathique.
Non, je crois qu'il a une fille qui est officier de marine. Ah, oui. Je crois qu'il a une fille qui, comme lui, a été aussi, il a fait l'école navale avant de. Donc Steve Bannon, ça a été le stratège, si je puis dire, l'intellectuel, entre guillemets, de la campagne de Trump. Pas tout de suite, mais je crois qu'il a été le deuxième directeur de campagne. Donc c'est un profil que retrace très bien ce film qui va sortir en salle, je ne sais pas sous quel nom, d'ailleurs, le manipulateur.
Le grand manipulateur.
Voilà, alors lui aussi, il aime la position de stratège, mais voilà, c'est un homme qui est assez diplômé, qui a fait l'école navale, qui a été officier de marine à un moment, je crois qu'il est catholique d'une famille d'origine irlandaise.
Du sud des États-Unis.
Voilà, du sud des États-Unis, oui. Du sud, c'est absolument. D'où la tradition militaire. On fait souvent une école militaire. Il fait d'ailleurs une école militaire, puis l'école navale. Puis il fait son droit à Harvard. Et puis il est banquier chez Goldman Sachs. Puis il est producteur de films. Mais c'est là que se révèle, si je puis dire, le profil idéologique. C'est-à-dire qu'il produit des films qui portent la marque du déclinisme. L'Amérique décline. C'est lui qui trouve le slogan « Faire que l'Amérique soit grande, refaire la grandeur, revenir à la grandeur de l'Amérique.
Again.
Make America great again », qui sera le slogan de Trump. Donc il gagne de l'argent aussi à Hollywood en tant que producteur. Il fait des films non seulement, il a notamment fait un grand film sur le thème apocalyptique où au fond l'Occident chrétien est amené à disparaître.
Et ses références sont souvent françaises. Hein.
Il cite Maurras.
Il cite Jean Raspail que vous citez aussi, Georges Buisson, dans le livre.
Le Camp des Saints.
Voilà, le Camp des Saints.
Ouais. Il aime l'Europe latine d'ailleurs. Ouais. Hein. Il aime l'Europe, il connaît l'Europe, l'Italie, la France, etc. Puis il rentre encore plus ouvert, il rentre en politique plus active quand il va diriger un site, une radio, qui est aussi un site numérique d'information qui s'appelle Breitbart, et qui se veut le chantre de l'ultra-droite américaine, avec de temps en temps d'ailleurs des concessions ou des complaisances en tout cas antisémites. Bien que je pense pas qu'on puisse le soupçonner d'antisémitisme, mais enfin, c'est à l'antenne aussi, ça fait aussi partie de cette espèce de melting pot qu'il va représenter et regrouper. Et si vous voulez, lui, c'est la suite du mouvement qu'on a appelé les Tea Party, mais qui était un mouvement de la classe moyenne. Lui, il pense qu'il faut définitivement arracher, comme cela a été fait du temps de Ronald Reagan ou de Nixon, par exemple, mais qu'il faut définitivement arracher la classe ouvrière blanche, ouvrière et employée, au Parti démocrate. Le thème, c'est l'anti-mondialisation. Oui. Le cheval de bataille, c'est l'immigration. Il est anti-libre-échangiste, anti-immigration. Et il va incarner comme ça une manière de...
Exactement comme Buisson. Hein.
De nationalisme blanc.
Oui, si c'est ça. Voulez. Mais alors, ce qu'on voit dans le film, c'est le film le prend à la fin, en fait, quand il sort de la Maison Blanche, finalement, et quand il fait ses tournées européennes pour créer son mouvement pan-européen qui ne va pas vraiment fonctionner au bout du compte.
Son idée, c'est que le temps, voilà, qu'ils sont en train de devenir la force politique dominante dans les démocraties occidentales. En Europe de l'Ouest et au-delà même, et aux États-Unis. Et qu'il faut créer une structure qu'il appelle le mouvement populiste global, qui serait une structure comme ça d'échange, d'édition, de médias, etc., etc., et de soutien électoral, de stratégie électorale. Il se propose d'aider les mouvements populistes européens, notamment le Front National, à réussir ses batailles électorales. Il est présent en Hongrie, il est présent en Pologne, et voilà. C'est un échec.
C'est un échec
massif parce que, alors il peut dire que le dernier résultat des élections européennes, c'est pas un échec pour les mouvements protestataires, dans la mesure où ils ont fait leur meilleur score. Mais c'est un échec parce que, et on verra bien, ils n'arrivent pas à constituer un groupe unique. Les singularités nationales l'emportent. Il y a des différends très forts entre eux. Bolsonaro, lui, par exemple, est un libre-échangiste. Sa politique économique est ultra-libérale. Le parti au pouvoir en Pologne est très méfiant à l'égard de la Russie et particulièrement de Poutine, etc., etc. Et donc finalement, cette idée de faire une sorte d'internationalisme du populisme, un pop-intern, comme on a eu un com-intern, s'avère un échec monumental, parce qu'il y a presque une contradiction dans les termes, entre vouloir faire émerger partout des nationalismes et des singularités nationales, et créer un mouvement internationaliste.
Voilà, il y a un moment donné dans le film, il y a un petit moment où c'est assez drôle, où je sais plus quel leader nationaliste dit, il nous faudrait un gimmick, quelque chose qui nous rassemble comme un drapeau, mais sans nier nos particularismes nationaux. Et l'idée tombe à plat parce que personne ne sait comment faire ça. Est-ce que Patrick Buisson avait cette idée-là aussi d'un mouvement populiste international ou pas du tout ?
Non.
C'est la France.
C'est la France, mais il y a toujours eu des contacts avec l'étranger. Pendant très longtemps, le MSI, les Italiens ont servi d'exemple au Front National. Ils ont emprunté même leur logo. Ils ont longtemps lorgné du côté de l'Italie, qui a été un laboratoire électoral de l'extrême droite pendant des années. Qu'il est encore aujourd'hui d'une certaine manière, même si l'Italie est un régime parlementaire et on peut pas non plus tout transposer l'Italie à la France, mais les contacts ont toujours été très présents. Et quand les gens d'extrême droite s'exilent, souvent ils vont en Italie. Il y a encore deux, trois, je crois, qui sont là-bas, notamment des proches de Marine Le Pen, qui sont en exil en Italie.
Oui. Alors quel bilan est-ce qu'on peut essayer de faire de cette séquence qui a commencé au début des années 2010 et qui s'est plus ou moins... Les populismes ne sont pas morts, mais en tout cas, là, il y a une séquence qui s'est achevée aux dernières élections européennes, en quelque sorte. Et ce qui se poursuit aujourd'hui est quand même très chaotique. Partout où les populistes sont arrivés au pouvoir. Est-ce qu'on peut tirer un bilan de ces expériences ?
Oui, enfin, on peut certainement tirer un bilan, mais qui ne constitue en rien une prophétie pour l'avenir, dans le sens où probablement que la progression de ces partis populistes, peut-être qu'on reviendra sur quand même la définition toujours délicate à apporter sur populisme, parce qu'on a aussi parlé de nationalisme, mais je dirais que moi je vois plutôt davantage de sources d'inquiétude. Des prochaines années en Europe et peut-être même sur d'autres continents, pensons à l'Amérique du Sud et aussi à l'Asie, autour du finalement ce mouvement dit populiste qui effectivement ne peut pas être global. C'est profondément une contradiction, parce que le populisme, il y a une dimension en Europe d'un populisme qui se construit et qui est en filiation avec le nationalisme, c'est-à-dire le refus d'un modèle culturaliste, un refus au-delà de la question culturelle en tant que telle, sur le plan des valeurs, qui permet de rassembler les populistes européens, c'est un rejet de l'immigration, qui leur permet également de restaurer des valeurs sur un creuset judéo-chrétien. Mais évidemment, pour Bolsonaro, c'est une autre matrice idéologique. Et pour Trump, d'une certaine manière, la question de l'immigration, parce qu'on dit Trump a pris une position très très ferme vis-à-vis des migrants, vis-à-vis des voisins mexicains. Mais Trump a une position, je dirais presque un peu plus libérale que beaucoup de populistes européens. Parce qu'au fond, il n'en a pas fait comme Boris Johnson ou comme le leader du UKIP pendant la campagne du Brexit. L'argument sur lequel l'ensemble des électeurs pouvaient se rassembler, c'était davantage la défense des intérêts nationaux plutôt que de constituer le progrès, la richesse à venir de ce pays autour d'un rejet des immigrants. Oui. On entend rarement Trump dire « si vous n'avez pas d'emploi, c'est de la faute des immigrés ».
Oui.
C'est pas une rhétorique fréquente chez Trump.
Non, mais en revanche, si vous avez du crime, c'est de la faute des immigrés.
Exactement. Oui. On va utiliser les menaces. Et donc, je suis un président qui vous apporte des protections. Mais c'est la menace. Une menace assez imaginée.
C'est largement instrumentalisé pour piéger les démocrates dans leurs contradictions aussi.
Absolument, on est d'accord. Et pour moi, ce qui est essentiel sur l'avenir des populismes, c'est au fond une grande difficulté dans ce que vous appeliez le champ métapolitique. C'est la difficulté de se réunir sur une stratégie qui dépasserait l'espace national. Et ça, on voit bien que malgré des ressemblances, malgré des points d'accord entre la Ligue du Nord en Italie ou bien l'AFD en Allemagne et le Front National, il y a beaucoup trop aujourd'hui de différends pour imaginer un mouvement fédéré et orchestré ou soutenu par Bannon. En revanche, moi, ce qui me semble nouveau dans ce populisme du XXIe siècle, c'est la très grande difficulté en termes de positionnement politique entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Parce que l'on voit qu'il y a des éléments communs.
Oui, oui.
Mais il y a quelques éléments communs qui s'opposent à une grande, grande variété d'éléments, je dirais, qui les opposent. Ils ont en commun le souci de la, du refus de la complexité. C'est extrêmement important. C'est-à-dire, tout a une justification. Et le bon sens, qui est souvent employé notamment par, par Salvini, c'est un élément qui marque les électeurs. Et derrière le mot populisme, c'est pas seulement la question nationale qui est dominante. Oui. On peut la construire en termes de politique publique. On peut également la construire en termes de je dirais, de, d'alliance électorale. Mais c'est aussi, sur le plan rhétorique, le bon sens, l'opposition vis-à-vis des élites, qui est souvent la définition retenue, hein, le peuple contre les élites. Ce que vous disiez était très intéressant en termes de qui conseille ces leaders populistes. On voit bien que la grande difficulté, c'est que ces leaders n'ont pas accès, je dirais, à des ressources dans un système déjà constitué. Donc on est obligé de sortir des cercles habituels du pouvoir.
Oui, d'aller chercher des marginaux.
D'aller chercher des marginaux. Et donc, s'affirmer quand on veut construire une pensée disruptive, on n'a pas le choix d'aller au plus simple. Parce que si on produit une pensée complexe, eh bien, on se retrouve dans ce qu'il condamne et ce qu'il rejette, c'est-à-dire l'accaparation du pouvoir par un microcosme, par des élites façonnées depuis des décennies, voire des siècles.
Non, je revenais à ce que vous disiez en partant de Marc, en partant de 2010 et qui va petit à petit, et vous aussi, en racontant l'émergence de ces forces nationalistes ou populistes. Alors c'est intéressant parce que en Amérique, populiste n'est pas connoté négativement, non, comme chez nous, pas du tout. Il est tout à fait.
Mais le populisme de Bannon et Trump n'existait pas sous cette forme avant non plus.
Il ne faisait pas partie du tout d'aucune tradition politique américaine, pas plus, notamment pas de la tradition populiste américaine. Mais la semaine dernière, justement, le Financial Times faisait un papier en se demandant si ces mouvements populistes en Europe et aux États-Unis n'avaient pas atteint leur sommet et maintenant allaient commencer à redescendre. Et l'article d'ailleurs concluait comme vous, pas du tout, il était plutôt inquiet et il citait une moyenne électorale de ces mouvements populistes en général qui représentaient 7% d'électorat en 2010, hein, et vous avez bien raconté cette montée, et aujourd'hui en 2017 c'est entre 30 et 35%. Alors c'est vrai que l'épreuve du pouvoir est corrosive. C'est vrai que l'épreuve du pouvoir, que la complexité du pouvoir est très corrosive pour eux et les malmène, et c'est vrai, et peut vraisemblablement les ramener ensuite dans l'opposition. En même temps, il y a une déconnexion entre ce qu'ils disent et une fidélité de l'électorat. J'ai été frappé, pour pas dire stupéfait en France, par l'exemple du Front National ou Rassemblement National. Mais il y a 2 ans, Madame Le Pen... Donc, mène campagne, est au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur un programme dont le cœur, le noyau dur, est la sortie de l'euro et de l'Union européenne, et de l'OTAN aussi, etc. Donc, quelque chose d'extraordinairement disruptif par rapport à ce qu'est la France. Et puis, 2 ans plus tard, elle réalise un très bon score aux européennes en proposant le contraire, rester dans l'euro et rester dans l'Europe. Ça n'a aucun impact, sur son électorat.
Une dernière question, Georges Buisson. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes libéré de votre père ou pas?
Moi, j'ai renoncé à mon père. Donc, de mon côté, je suis libéré. Mais sinon, non. Malheureusement, je dois encore subir. Le subir.
Au niveau personnel et comme au niveau collectif, la menace est toujours là.
La menace est toujours là et elle grandit.
Tu redescends chez ton opium. Y retrouver tes sœurs perdues, tes chimpanzés qui nous déloquent dans tes pissotières, des saluts chez les vieilles qui trafiquent le spleen, ta bouffe et tes nerfs et tes nuits. Et maintenant tu cherches une combine pour domestiquer et nos envies. Oh, papa, t'as encore brisé l'overdose. Tellement le pouvoir, ça te shoot. T'es aussi coincé qu'un Rolls-Royce tomber dans une cuve à ma soute.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Céline Leclerc, avec à la technique Julien Calvas et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière.
Mais coincé dans cette vieille histoire, à quoi nous servent tant d'illusions? Moïse qui a perdu la foi joue le veau d'or au strip poker. Et Jésus descend de sa croix en faisant claquer sa portière. Oh papa, tes militants réclament leur dose, t'as qu'à leur montrer tes biroutes. T'es aussi coincé qu'un roll-mops tombé dans une cuve.